si les monts et les veaux enneigés du Morbihan pour venir ce matin à la maison du diocèse. Bienvenue à chacun, chacune de vous. Comme c'est la tradition ce mois de janvier, le chapitre cathédral vient présenter ses vœux à notre évêque, Monseigneur Santaine. Je laisse donc la parole au doyen du chapitre, le père Gabriel Gégouzeau.
Monseigneur, mesdames, messieurs, frères, sœurs, Christi Fideles. Alors, selon la coutume, eh bien, je présente mes vœux à Monseigneur, et c'est tout le chapitre. Je fais d'abord une petite rétrospective de l'année passée. Je vais signaler quelques événements marquants de l'année 2023. Je parlerai, je dirai quelques mots sur les associations, l'année jubilaire, la formation permanente, et après les statistiques. Alors, une rétrospective. Au premier trimestre 2023, le 12 janvier au Palais des Arts, il y a eu une table ronde proposée par les AFC, Association Familiale Catholique du Pays de Vannes, sur le thème « La fin de vie en question ». Le 25 janvier, à Hennebont, rencontre animée par le groupe bioéthique diocésain sur le thème « Accompagner les personnes en fin de vie ou provoquer la mort ». En mars, à Vannes et à Lorient, conférence du père Benoît de Cinetti à l'invitation du Secours catholique et de la pastorale des migrants. Au second trimestre, le 1er avril, il y a eu les assises régionales des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, à Vannes, sur le thème « Peut-on concilier fraternité et compétitivité ?» Dans le diocèse, nous avons 6 équipes EDC, de 10 personnes chacune. Du 23 au 29 mai, environ 900 pèlerins du diocèse se sont rendus à Lourdes. Le thème « Je fais de vous la lumière des nations ». Le 10 juin, 50 adultes sont confirmés à la cathédrale. Le 18 juin, il y a eu 3 ordinations. Simon Lio de Norbécourt, prêtre. Michael Marzin et Mike Meigneux, diacre permanent. 3 autres ordinations ont eu lieu plus tard dans l'année. Le 29 juillet à Kergonan, dont Jean-Vincent Giraud, prêtre. Le 9 septembre à Pleuermel, François-Régis Dugenet, diacre en vue du sacerdoce, ordonné par Mgr Antoine de Romanet pour le diocèse aux armées. Le 10 décembre à Logminé, Étienne Marois, diacre en vue du sacerdoce pour notre diocèse. Au troisième trimestre, du 25 au 31 juillet, puis du 1er au 6 août, 370 lycéens, étudiants et jeunes professionnels du diocèse participent au JMJ à Lisbonne. Le 26 juillet, traditionnel pardon de Sainte-Anne, pluie en début de journée, qui heureusement a cessé dès le départ de la procession. Le pardon a été présidé par Mgr Michel Kartategui, archevêque émérite de Niamey au Niger. Autre grand rendez-vous de l'été, à Notre-Dame de la Tronchet, à Rochefort-en-Terre, Kelvin à Guernes, en septembre Notre-Dame du Roncier à Josselin, pardon qui a été présidé par Mgr Jean Barre, archevêque d'Alep en Syrie. Et ensuite Notre-Dame de Joie à Pontivy. 9 septembre, rentrée diocésaine à Sainte-Anne-d'Auray, environ 150 prêtres, diacres, représentants de communautés religieuses et laïcs en mission pastorale se sont rassemblés en cette journée. 9 et 10 septembre, chez les Sœurs de Kermaria, spectacle en plein air avec de nombreux figurants intitulé « Le mystère de Kermaria », évoquant la naissance de la congrégation des filles de Jésus à travers la vie d'Angélique Périgot, devenue supérieure générale sous le nom de Mère Marie de Saint-Charles il y a exactement 200 ans. En septembre, Monseigneur nomme une nouvelle équipe de vicaires généraux composée des pères Yann Lamouroux, Yvan Brien et Antoine Leroët. Quatrième trimestre. 21 et 22 octobre à Lourdes, une délégation de 6 diocésains a participé au rassemblement Kérigma sur le thème « L'évangélisation dans le monde actuel ». Le 28 octobre, bénédiction abbatiale d'un nouveau père abbé à Kergonan, dont Jean-Vincent Giraud, ordonné quelques semaines auparavant. 24 octobre, retraite annuelle des prêtres du diocèse à l'abbaye de Mondaille en Normandie. 8 décembre à Sainte-Anne-d'Auray, messe d'ouverture de la deuxième année préparatoire au jubilé. Le 9 décembre, rencontre diocésaine à Sainte-Anne de plusieurs associations au service des personnes en difficulté, l'association La Source à Bréhan, l'association Stéphane Bouillon à Auray et le Secours catholique Saint-Vincent-de-Paul et la fraternité Saint-Jean-Baptiste. À relever encore 3 autres associations à l'œuvre dans notre diocèse à l'initiative de laïcs au service des familles et des personnes en difficulté. TIMAD, située près de la gare à Vannes. Cette association accueille des familles en situation de précarité ou des migrants en situation régulière. En janvier 2023, cette association pouvait annoncer qu'elle avait déjà accueilli 9 familles en l'espace d'un an et demi. Autre association, Toen Anti, association écuménique pour les familles dans l'obligation de quitter le territoire français et qui ont déposé un recours, et dans l'attente d'une décision administrative définitive, ces personnes sont bien sûr dans la rue, avec leurs enfants, scolarisés quand même, l'association se propose de les aider et de leur proposer un logement provisoire. Et puis la Belle Porte à Auray, association créée en 2006, association qui s'inscrit dans les valeurs de la communauté de l'Arche, et qui propose à des personnes en situation de handicap de se retrouver en communauté chaque semaine. Alors, quelques mots sur le cheminement du diocèse vers le jubilé de l'année 2025. Au cours de l'année 2022, un programme de 3 ans a été déterminé pour aboutir à l'année jubilaire. Bon, ces années vont de septembre à septembre. Programme ainsi proposé. 2023, donc, Sainte-Anne, modèle d'espérance, de foi et de charité. 2024, année consacrée à Marie, modèle de la foi. Et donc 2025, l'année jubilaire, coïncidant avec le 400e anniversaire des apparitions de Sainte-Anne à Nicolazic. Sainte-Anne nous a présenté la lumière du Christ ressuscité à travers un flambeau, le Christ, lumière du monde. Nous avons donc vu se dérouler la première année en 2023 et nous sommes entrés depuis le mois de septembre dans la deuxième année consacrée à Marie, modèle de la foi. Quelques mots sur la formation permanente dans le diocèse. Formation proposée pour répondre aux attentes des fidèles qui désirent approfondir leur foi, mieux la comprendre et mieux en témoigner. Formation également nécessaire pour les acteurs pastoraux et toutes les bonnes volontés qui participent à la vie pastorale dans les paroisses et mouvements et pour devenir disciples missionnaires. Le service de formation humaine et chrétienne du diocèse a mis en place en 2020 un institut de formation appelé Athénée, qui propose des parcours de formation intellectuelle, spirituelle, humaine et pastorale. Ces parcours sont appelés scolaires et se déroulent dans plusieurs lieux du diocèse de manière à rendre plus facile la participation. Lorient, Pontivy, Cluermel, Vannes et Carnac, et puis maintenant également Teix-Noyalo. Une scolaire peut comporter une douzaine de cours dans l'année, moins dans certains cas. En 3 ans, l'Athénée a déjà formé plus de 800 personnes. L'an dernier, donc de septembre 2022 à septembre 2023, ont été proposés d'abord la scolaire fondamentaux, on comprenait la formation initiale, philosophie, christologie, père de l'Église, ecclésiologie, et une douzaine d'autres scolaires sur des sujets variés, comme fragilité et lien social, famille et transmission, itinéraire spirituel, clé pour la mission, liturgie, funérailles, visio divina. Pour l'année 2023-2024, l'Athénée ajoute un nouveau parcours, la scolaire Credo, sur le contenu de la foi, vertu associée à cette deuxième année de préparation au jubilé de Sainte-Anne. En plus de ces propositions, le 14 octobre dernier a eu lieu une journée de conférences, ateliers et débats sur l'écologie intégrale, sous l'appellation Academia Oikos. Une 60aine de personnes y ont participé. Alors maintenant, quelques statistiques diocésaines qui portent sur les sacrements, célébration des sacrements et liturgie dans le diocèse. Alors, comme les statistiques sont faites en février, au retour des informations venues des paroisses, les chiffres présentés maintenant ont été établis fin février 2023 et concernent donc l'année précédente. Baptême, 3193, dont 1093 concernant les enfants de moins d'un an, 1863 pour les enfants de 1 à 7 ans, 163 pour les 7-12 ans, 18 pour les 13-18 ans et 56 adultes. Première communion 1131, profession de foi 481, confirmation 677, mariage 777. C'est-à-dire un peu plus que l'année précédente où il y avait eu 606. Sépulture 6054. Prêtre et diacre du diocèse en 2013, chiffre établi le 20 octobre dernier. 217 prêtres, dont 147 incardinés au diocèse de Vannes, 56 venant d'ailleurs et 14 religieux prêtres en service dans le diocèse. Ne sont pas comptés ici les religieux prêtres dans leurs instituts ou monastères. Sur ces 217 prêtres, 54 ont plus de 80 ans, 39 ont de 65 ans à 79 ans, 71 ont de 45 ans à 64 ans, et 51 ont moins de 44 ans. les diacres permanents sont au nombre de 72. 10 d'entre eux ont commencé leur ministère dans un autre diocèse et sont arrivés dans le Morbihan à la faveur de leur retraite professionnelle. L'état du clergé par fonction, les prêtres seulement. Sur les 217 prêtres, 78 sont curés ou recteurs ou administrateurs de paroisses ou d'ensembles paroissiaux. 51 sont vicaires ou au service des paroisses. 38 sont dans d'autres fonctions. Au total, 167 prêtres exercent une activité dans le diocèse. 41 sont retirés ou sans affectation et 7 exercent leur activité en dehors du diocèse. Les religieux prêtres qui sont en communauté ou monastère dans le diocèse, puis les religieux frères et les religieuses. Alors les chiffres sont de la fin du mois de février 2023. Les religieux prêtres sont au nombre de 71. Bénédictins, cisterciens, spiritains, montfortins, titusiens, jésuites, coopérateurs du Christ-Roi, frères de Saint-Jean. Les religieux frères, au total 123. En activité ou retirés, il y a deux maisons de retraite de frères, l'une à Kerplouze, l'autre à Josselin, et à Langonnette, 7 frères spiritains sont retirés. Les religieuses sont au nombre de 682. Les baptisés laïcs exerçant des responsabilités dans les paroisses et les mouvements. Pas de statistiques pour ces nombreux laïcs. Qui sont-ils? Où sont-ils? Nous pouvons tenter une énumération. Ainsi, les LEM, laïcs en mission, les catéchistes, les animateurs liturgiques, ceux qui dirigent les obsèques, les laïcs à l'accueil dans les presbytères, au secrétariat, à la comptabilité des paroisses, les sacristains, les organistes, les responsables de chorale, les rédacteurs de bulletins paroissiaux, les organisateurs de kermesses, etc. Ils sont nombreux. Puis les personnes au service de l'intendance dans les presbytères, les gros bras pour les travaux d'aménagement, les petites mains, fleuristes, lingères, les laïcs à la direction des mouvements et dans les services diocésains, entre aussi comme acteurs de la vie pastorale, l'enseignement catholique, en particulier dans le primaire, où des enseignants assurent la catéchèse, et les animateurs de pastorale scolaire dans le second degré. Ce sont également acteurs de la pastorale, des animateurs des aumôneries de l'enseignement public. Dans cette énumération, nous oublions sans doute d'autres personnes actives, qu'elles nous en excusent. Grâce à toutes ces contributions, le dispositif pastoral est comme une ruche bourdonnante. Il faut ajouter aussi le service des pèlerinages, puis les salariés de l'évêché. Monseigneur, vous connaissez bien le diocèse pour l'avoir parcouru en long et en large depuis des années, pour l'avoir rencontré à travers les visites pastorales, la célébration, en particulier les confirmations, les grandes fêtes, les pardons, les réunions avec les différents conseils, le conseil presbytéral, les rencontres avec les prêtres, avec les doyens, les réunions du conseil épiscopal. Vous connaissez les forces et les faiblesses du diocèse. Vous connaissez bien vos proches collaborateurs que sont les prêtres. L'évangile est vu comme une tâche essentielle. Le défi est celui de la transmission de la foi chrétienne, de la transmission dans les familles, de l'écart dans la pratique et l'engagement entre les générations. Comment vivre ensemble notre foi et en être témoin. C'est dans ce contexte que nous osons tous ensemble, prêtres et laïcs engagés, religieux et religieuses, c'est dans ce contexte que nous voulons être missionnaires, non pas de tristes témoins, mais des hommes et des femmes de conviction, la foi bien ancrée dans notre vie. Dans notre diocèse, les ressources humaines pour l'évangélisation ne manquent pas. Les propositions pour faire grandir la foi sont nombreuses et importantes. Le périodique « Chrétiens en Morbihan » met en valeur tout ce qui se fait tout au long de l'année pour l'évangélisation. Ce magazine nous montre la vitalité de nos communautés et toutes les initiatives missionnaires. Monseigneur, c'est donc avec courage et bien déterminé que les membres actifs de votre diocèse entrent dans cette nouvelle année 2024. Ils vous assurent de leur fidélité et de leur loyauté. Pour votre ministère épiscopal, à la suite des apôtres, ils vous souhaitent la santé et toute l'énergie nécessaire pour gouverner le diocèse et le maintenir dans un dynamisme missionnaire. Bleadmat, Dianmat, Gresdwe, Agbaradez, Benorfin, Agupue. Bonne année, bonne santé, la grâce de Dieu, le paradis à la fin de votre vie.
Monsieur le doyen du chapitre, cher Gabriel, je vous remercie pour les vœux que vous venez d'exprimer au nom du chapitre de la cathédrale, ainsi que pour la description du diocèse que vous venez de faire, tant par la rétrospective de l'année 2022 que par les statistiques de l'année 2023, que par les statistiques que vous avez données pour l'année 2022. Cette rétrospective et ces statistiques nous montrent que même si les obsèques sont les cérémonies les plus répandues, le diocèse n'est pas encore mort et qu'il manifeste même une certaine vitalité. Mais les chiffres pourraient être trompeurs et créer une certaine illusion. Ils pourraient ne traduire que la survivance peut-être plus prégnante en Bretagne qu'ailleurs, d'une pratique sociologique, plus enracinée dans la coutume que dans des convictions personnelles éprouvées. Ces chiffres aussi pourraient n'être que le résultat de nos efforts humains, de cet engagement volontariste que le pape François qualifie de pélagianisme, cette vieille hérésie qui laissait croire que la grâce est le fruit de nos efforts et que l'évangélisation peut être le résultat d'une stratégie, de techniques, de recettes, de mécanismes infaillibles, de méthodes à l'américaine, en un mot, de nos seules forces. Le deuxième livre de Samuel et le premier livre des Chroniques nous disent que pour avoir voulu recenser ses forces, au lieu de ne mettre sa confiance qu'en Dieu, David eut à choisir d'exposer son peuple à la famine, à la guerre ou à la peste. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, « Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. » Ainsi, par-delà des chiffres, je me réjouis du fait que la vitalité de notre diocèse, c'est surtout ce désir que vous avez évoqué dans la finale de votre intervention, d'être non pas de tristes témoins, mais des hommes et des femmes de conviction, la foi bien ancrée dans notre vie. C'est la raison pour laquelle la deuxième année de notre chemin jubilaire vers le quatrième centenaire des apparitions de Sainte-Anne, qui demandait à Yvon de Colasic de reconstruire son église, comme jadis à Assise le Christ à Saint-François, a pour thème Marie, modèle de foi. C'est donc une réflexion sur la vertu de foi, vous l'avez souligné, qui nous guidera tout au long de cette année 2024. La foi, c'est la décision de mettre en Dieu une confiance sans limite et d'organiser notre vie en conséquence. La foi est libre, elle relève de la décision intime de chaque homme et de chaque femme. Foi est un vieux mot français qui vient du latin fides et qui signifie confiance et engagement. La foi n'est pas un savoir basé sur l'évidence de preuves tangibles, comme peut l'être la démarche scientifique. Elle ne s'oppose pas pourtant à la raison. Elle repose sur la capacité humaine de croire de façon solide parce que l'on a de bons indices ou que l'on a éprouvé affectivement ou que l'on aime ceux qui nous en parlent. C'est ce que font les croyants, ils croient ce que leur rapportent les témoins. Témoins de la Bible, témoins de l'histoire, témoins d'aujourd'hui. Pascal aimait à dire « Je crois volontiers les histoires dont les témoins sont prêts à se faire égorger. » La qualité des témoins est donc la base de la crédibilité de leur témoignage. et partant la condition de l'évangélisation. Tertullien rappelait le cri d'étonnement des adversaires de l'évangile. Voyez comme ils s'aiment et comme ils sont prêts à donner leur vie les uns pour les autres. C'est ce que Benoît XVI appelait l'évangélisation par attraction, et c'est ce que le pape François développe dans son encyclique « La joie de l'évangile ». L'évangélisation n'est pas une reconquête, ni une affirmation d'identité. Elle repose fondamentalement sur la foi, sur le témoignage d'une foi vécue. Pour certains, la foi semble facile, évidente. Ils éprouvent un sentiment de foi naturel, un élan pour la foi. Pour d'autres, au contraire, la foi est plus difficile. Ils veulent croire, mais ils éprouvent des doutes. Ils rencontrent des obstacles qu'il leur faut surmonter. Saint Jacques écrit dans son épître: l'épreuve qui vérifie la qualité de la foi produit en vous la persévérance. Dieu nous aide à franchir les obstacles qui peuvent gêner notre foi. Et cela nous montre deux choses. D'abord que la foi est un don de Dieu. Ensuite, qu'il nous faut toujours la demander et la développer dans la prière. Saint Marc place cet oxymore dans la bouche du père d'un enfant qui demandait à Jésus la guérison de son fils. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Les épreuves que traversent en ce moment le monde et l'Église, nos épreuves personnelles, santé, deuil, insécurité, loin de diminuer notre foi, doivent au contraire nous recentrer sur l'essentiel et la faire grandir pour que nos communautés puissent donner le témoignage d'une foi plus forte, dynamisée par les épreuves, exaltée par la persévérance et épanouie dans l'exercice de la charité. Sur ce chemin, la Vierge Marie est pour nous et pour toute l'Église un modèle indépassable. En donnant au message de l'ange de l'Annonciation l'adhésion de sa foi, elle est la première à accueillir de façon parfaite le mystère de l'incarnation. Son itinéraire de croyante commence bien avant, dans l'héritage reçu et assumé de la foi d'Israël, par son éducation. Au foyer d'Anne et de Joachim, elle bénéficie d'une transmission familiale qui la dispose à recevoir le message de l'ange de l'Annonciation et à croire ce qui apparaît comme humainement impossible. sa foi se concrétise dans la charité et dans le service de ceux qui sont fragilisés, lorsqu'aussitôt elle se rend en grande hâte chez sa cousine Élisabeth, non pas pour vérifier si les affirmations de l'ange sont vraies, mais pour se mettre au service de sa cousine, chez qui elle reste environ 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. À Cana, sa foi provoque le premier miracle de Jésus et elle anticipe sa manifestation. Là aussi, c'est son attention discrète aux problèmes des autres qui motive son action. Ils n'ont plus de vin. Et elle se révèle comme éducatrice d'une foi active et engagée lorsqu'elle dit aux serviteurs de la noce: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle nous montre comment la foi se nourrit de la prière et de l'écoute de la parole, alors qu'elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Confiante en la parole de son fils, qui avait annoncé sa résurrection, elle ne vacille pas devant le scandale de la croix et par-delà les ténèbres du Vendredi Saint, elle attend avec confiance le matin de Pâques. Sachant que rien n'est impossible à Dieu, qui peut tirer la vie même de la mort. Le vœu que je formule pour le diocèse en ces premiers jours de l'année, c'est que la foi de Marie habite toutes et chacune de nos communautés, qu'elle les rende ardentes à accueillir les promesses de Dieu avec une confiance indéfectible et une charité agissante qui les rendent attractives dans notre monde en déshérence. Ce vœu, je le formule aussi pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles, vos amis et pour tous ceux qui vous sont chers. Que chacune et chacun, par-delà les épreuves personnelles ou les clameurs du monde, apprennent jour après jour à se recentrer sur l'essentiel, l'amour de Dieu et la confiance en son œuvre de salut. Bonne année, bonne santé et plus que tout, c'est la chose pour laquelle nous travaillons vraiment, le paradis à la fin de vos jours. Merci.
Seigneur, voilà donc une grande nouvelle que nous cherchons à célébrer dès maintenant. D'ailleurs, le paradis est la fin de nos jours. Et bien, pour fêter ça, c'est notre foi, notre espérance. Un pont nous attend, salle 15.
salle 15. Nous y sommes tous conviés, mais je sais que vous venez spécialement pour ça, d'ailleurs.